Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Bertrand, je suis votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de vous. Oui, de vous, mais en tant que marque. Alors, c'est un exercice que j'aime bien faire, je le fais faire en formation, je le fais faire aussi à mes étudiants, quand il s'agit de réfléchir sur toute la stratégie de communication, de la marque personnelle, même de la communication des entreprises, des chefs d'entreprise. J'aime bien faire réfléchir les étudiants, les personnes que je forme, tout type de profil sur la marque. Et je leur pose une question. Quelle est votre marque? Si vous réfléchissez à vous en tant que marque, quelle est votre marque? Et donc je leur demande de se regarder en tant que marque, et on pourrait dire la marque moi, hein, la grande marque moi, je suis, voilà. Mais bien sûr, pour arriver à ça, on a quelques étapes, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de commencer à débroussailler, j'ai envie de dire. Alors d'abord, par quoi est définie une marque? Alors c'est sûr qu'il y a une question du nom, parce que quand vous regardez les marques qui sont autour de vous, bien sûr, c'est un nom qui frappe, hein, et c'est souvent les anciennes marques ont des noms qui sont très familiers, très connus. On a tous même en tête les marques qui sont devenues des noms de produits, hein, on pense à Frigidaire, on pense à plein de marques comme ça. Donc c'est certain que le nom est important, et d'ailleurs c'est une vraie question, une problématique que l'on a souvent sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, sur l'utilisation de son propre nom. Voilà, moi, ma marque personnelle, Bertrand Soulier, c'est ma marque personnelle. Je l'ai aussi associé à d'autres éléments. Par exemple, sur mon blog de mec, j'ai associé mon blog de mec et Bertrand Soulier. Sur ce podcast, Votre Coach Web, c'est aussi ma marque que j'utilise pour la formation, pour présenter mes activités pro, de conseils, etc. Et au début, je dois vous dire que j'avais juste fait une marque, Votre Coach Web, tout seul, comme ça, sans mettre mon nom. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que je pouvais pas dissocier. J'avais du mal à parler sous le nom de Votre Coach Web et à côté avoir une vie Bertrand Soulier, etc. Parce que je pense en fait que nous sommes nous sommes une seule et unique personne. Et même si dans nos métiers, quand on fait de la vidéo, du podcast, du blog, de tout ce que vous voulez faire, hein, du moment que vous mettez en avant un côté personnel comme ça, il est compliqué quand même de vous exprimer sous le nom d'une marque un peu impersonnelle, voilà. Alors moi, ce que j'avais choisi de faire, c'était d'associer Votre Coach Web et Bertrand Soulier, c'est-à-dire ce que vous retrouvez sur mes blogs, sur mon logo, sur le nom de ce podcast, etc., sur la vignette, c'est quelque chose que vous retrouvez. Mais c'est une vraie question, et je l'ai notamment par des gens qui, alors j'ai pas envie de dire de la vieille école, de l'ancienne école, etc., mais des gens qui n'auraient pas trop envie d'exposer leur nom, leur prénom directement sur Internet et les réseaux sociaux, et qui aimeraient bien se cacher derrière. Il y a une question qui va se poser, et qui est importante, c'est peut-on vraiment rester à se cacher? Alors, pour mes étudiants en communication, marketing, etc., la problématique est différente, c'est qu'ils ont la problématique, mais c'est valable aussi si vous êtes embauché, c'est que se passe-t-il si on cherche votre nom sur Google, est-ce qu'on vous trouve, est-ce qu'on vous trouve pas? Et c'est souvent une question que j'ai, on me dit oui, mais est-ce que c'est un problème si on ne trouve pas du tout? Et pour des étudiants en communication ou qui doivent faire vivre des images d'entreprise, etc., moi j'ai une tendance à penser que oui, c'est un problème si on ne vous trouve pas. Et en tout cas, il y a une question qui se pose, la question qui se dit, mais pourquoi est-ce qu'il apparaît pas? Alors ça pose un questionnement. Moi je pense, voilà, je voudrais pas rentrer dans un débat philosophique, mais souvent, suivant les personnes, la réponse varie. Moi, je pense quand même que quand vous êtes sous votre nom, c'est difficile de se passer de son nom ou de son prénom. Voilà. Alors, bien sûr, je vous renverrai pas sur les études qui disent ou les prédictions qui disent que dans quelques années, on devrait changer de nom quand on arrive à la majorité, on devrait changer de nom tous les 10 ans. Ça, c'est la prévision des gens de chez Google, notamment, mais des réseaux sociaux, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, bon, c'est un nom. C'est aussi, alors, probablement, les marques, on les associe souvent avec un logo. Ou alors, au minimum, une photo. Moi, je dis toujours, d'ailleurs, que c'est important, notamment pour être sur des réseaux type LinkedIn, etc., c'est que la photo de profil est super importante. Et notamment si vous avez l'occasion de vous faire prendre en photo par un photographe professionnel avec une belle photo qui vous fera sourire, qui vous décontractera, etc., qui vous fera sourire avec les yeux, comme on dit, bah, je trouve que c'est essentiel. Donc ça peut être un investissement, mais ça peut être aussi des fois vous trouver des astuces pour le faire assez facilement de cette manière-là. Et alors après, bon, une marque c'est quoi aussi? C'est de la communication, ça peut être c'est bien sûr des outils, des messages, on pense à plein de choses, ça peut être des produits, etc. Mais en fait, le fondement de la marque, c'est surtout des valeurs. Et c'est des valeurs qui, dans ce cas, dans ce qui nous intéresse, c'est les valeurs que vous avez partagées avec vous-même. Hein, une entreprise plus grosse, elle doit partager les valeurs entre tous les salariés. Mais c'est aussi des valeurs que vous avez partagées avec la marque, avec les gens, pardon, excusez-moi, qui sont exposés à votre marque. C'est important cette histoire de valeurs parce que, quelque part, les marques, si vous regardez ce qu'elles font, les produits qu'elles vendent évoluent. Alors, des marques centenaires, moi clairement, on a Michelin. Michelin, bon, vous pensez pneus, mais il y a plein de trucs autour de Michelin, mobilité, caler des cartes routières, des panneaux d'indication, des bornes, de la carte sur Internet, enfin, du guide Michelin, etc. Alors, tout est lié par la mobilité, mais en fait, ils n'ont pas défini Michelin, c'est un fabricant de pneus, quoi. Michelin, c'est quelqu'un, et puis vous avez vu, en plus, il y a une nouvelle publicité là, qui est sortie là, récemment, qui est plutôt sur dire Michelin vous accompagne dans la mobilité, en toute sécurité, en faisant attention à la planète, enfin vous voyez tout un tas de valeurs comme ça. Bon, les grandes marques, pour elles, c'est facile parce qu'elles ont des armées de gens pour réfléchir à ces valeurs-là, mais je pense même d'ailleurs c'est pas si facile que ça, parce que les grosses marques, pour les faire bouger, on les fait bouger avec précaution quand même. Hein. On déplace pas les valeurs de la marque si facilement que ça, alors que nous, à notre échelle, moi j'ai envie de dire, si je change quelque chose sur ma marque, il n'y a pas grand monde qui va s'en rendre compte. Alors j'en reparlerai d'ailleurs parce que c'est intéressant. Cet aspect de débuter un jour et le confort que ça vous amène, et ça vous amène un confort assez, pendant pas mal de temps, j'ai envie de dire. Alors, pour revenir à cette histoire de valeur, on pourrait dire donc que la marque personnelle et surtout son succès va s'appuyer sur trois grandes choses, qui seraient les valeurs personnelles clairement annoncées, donc il faut découvrir, ce sera le sujet tout à l'heure, enfin dans quelques secondes. Une manière aussi de vous démarquer, mais en restant vous, par rapport à des concurrents, etc., c'est-à-dire de comment vous exprimez vos valeurs, mais comment vous montrez aussi votre singularité. Là-dessus aussi, on en reparlera au fur et à mesure, c'est un sujet récurrent. Ce matin, j'avais des personnes en formation, je les invitais à lire La Vache Pourpre de Seth Godin, par exemple. Et puis un plan marketing, bien sûr, pour montrer tout ça. La marque personnelle, je vous rappelle que, en fait, et je voudrais surtout l'affirmer haut et fort, elle a surtout la puissance que vous voulez bien lui donner vous, c'est-à-dire que c'est à vous de la faire vivre, c'est à vous de la faire exister, mais de l'utiliser, de parler avec, etc. C'est votre capacité à la partager, à la faire vivre, voilà, qui va lui donner sa puissance. Ça ne sert à rien de créer une marque, qu'elle soit personnelle ou pas d'ailleurs, ça ne sert à rien de créer une marque si vous la gardez pour vous, quoi. Vous l'enfermez dans un coffre, etc., personne ne la connaîtra. La marque, c'est la... Pour qu'elle vive, c'est il faut la partager, il faut communiquer avec, il faut l'utiliser. Et en fait, c'est la puissance, dans le cas de la marque personnelle, la puissance vient de ce que vous en faites, vous. Alors, commençons par ces fameuses valeurs. La première question qu'on pourrait se poser, d'ailleurs, elle est assez simple en apparence, c'est la question « Qui suis-je ?». Alors, c'est une question simple, mais est-ce que la réponse est simple? Voilà, alors je ne vais pas vous donner le temps, là, dans les quelques secondes qui viennent pour le faire, mais... En formation, c'est un temps que je peux donner, je dis ah, « Qui suis-je ?» Voilà. Comment vous répondez à ça? Alors, vous avez plusieurs manières de répondre. Vous pourriez répondre par la version longue et vous pourriez répondre par la version courte. La version courte, c'est vous avez 15 secondes pour dire qui vous êtes. Bon, voilà. Alors là, j'ai envie de dire, ça reviendrait presque à faire un tweet. Hein. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous devez mettre dans les bios de vos profils sur les réseaux sociaux. Et puis, vous avez la version longue. Et la version longue, en fait, on va revenir à ces notions de storytelling. Alors d'ailleurs, sur le storytelling, je voudrais dire un truc. Je sais pas si je l'ai dit, mais souvent le storytelling est pris comme un gros mot. Hein. On dit, ouais, le storytelling, c'est du bullshit, etc. On raconte des histoires, mais c'est bidon, quoi. En fait, storytelling, enfin, si on vraiment s'attache au mot, c'est juste l'art de raconter une histoire. Le but du jeu, c'est... vous pouvez raconter des histoires totalement fausses, mais vous devez raconter une histoire totalement vraie. Souvent, il est connoté parce que les gens pensent que l'histoire, elle est trop belle pour être vraie, elle est inventée, il y a des passages, etc. Alors, je vous ai parlé d'authenticité plusieurs fois, et c'est vrai que le storytelling sans authenticité, c'est de la merde. Voilà, il faut dire ce qui est. Mais ça ne veut pas dire que le storytelling en lui-même est merdique. Le storytelling, en fait, c'est la capacité à raconter l'histoire. Et sur les réseaux sociaux, sur votre blog, sur tous les supports internet que vous avez, mais aussi dans ce que vous faites, dans vos actions que vous faites, bah finalement, vous participez à votre storytelling, à votre histoire. Et puis, alors, on en reparlera, mais il y a les grandes histoires, les petites histoires, les grandes histoires sur plusieurs mois, années et autres, et les petites histoires du quotidien. Alors, si cette question « qui suis-je » n'est pas si simple à répondre, il est, comment dire, vous avez un peu de temps à passer sur la phase de découverte. Alors, pour répondre à cette question « qui suis-je », mais aussi... il faut avoir un peu plus de lucidité sur soi-même et moi je vous propose plutôt d'avoir une autre vision, un autre outil qui, alors moi je l'appelle la roue des 5 savoirs, mais je suis pas certain que ce soit son vrai nom et je l'avais chopé, je sais plus où d'ailleurs, alors je m'excuse si l'auteur un jour écoute ça, mais la roue des 5 savoirs, en fait on la voit des fois sous d'autres angles, mais j'aime bien adapter comme ça aux réseaux sociaux. Il y a d'abord le savoir. Qui est la première chose, c'est le savoir, c'est-à-dire ce que vous avez appris. On sait tous des choses, mais ça ne veut pas dire ensuite qu'on en fait quelque chose. Parce que le deuxième point, c'est le savoir-faire. Si on prend par exemple cette histoire de raconter des histoires, on a tous appris à écrire. On a tous appris à lire, à écrire. Je trouve que d'ailleurs, l'école ne nous apprend pas assez à raconter des histoires. On devrait apprendre à faire des scénarios... raconter des belles histoires, etc. Alors peut-être qu'on l'a appris, mais l'a oublié. Mais je trouve qu'en fait, on devrait avoir une matière au bac, conteur d'histoire. C'était une idée, je trouve, qui est assez intéressante, parce que dans les temps modernes, quelque part, des savoirs importants, ou en tout cas des savoir-faire importants, parce que savoir ce qui est une histoire, c'est une chose, mais savoir la raconter, c'est une autre chose, c'est un savoir-faire. Je trouve quand même que raconteur d'histoire, conteur, etc., ça fait partie des choses qui sont primordiales dans notre temps, et quel que soit le boulot que l'on fait, ou même pour trouver du boulot, etc. Mais là, c'est un autre sujet, je m'éloigne un peu. Donc on a le savoir, et puis donc on a le savoir-faire. Moi, je vous donne des exemples, hein. J'ai appris la compta, mais c'est pas pour autant que je sais faire la compta d'une entreprise. J'ai appris plein de choses très théoriques, mais je m'en sers pas. Et puis, les choses qu'on apprend, on n'apprend pas ça forcément à l'école, hein. Moi, j'ai appris PHP dans le métro avec un bouquin, puis en faisant des exercices ensuite quand j'entrais à la maison. J'ai appris la vidéo par moi-même, j'ai appris à faire plein de choses par moi-même, et mon savoir-faire maintenant, quand je dis oui, je sais écrire des billets de blog, je sais faire... Alors par exemple, je ne vais pas dire que je sais faire du podcast, hein, je suis un podcasteur débutant, mais dans ce que je maîtrise, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de choses que j'ai appris par moi-même, mais on en revient sur cette notion d'artisan, d'artiste, de tout un tas de choses, et que je vais creuser ensuite au fur et à mesure des nouveaux épisodes. Et puis ensuite, il y a d'autres choses qui interviennent dedans. Notamment, il y a le savoir-être. Alors le savoir-être, il y a le savoir-être, comment dire, physique, hein, et souvent, on disait dans le savoir-être, notamment, il y a les bonnes manières, il y a la manière de s'habiller, est-ce qu'on a le costume qui va avec le rôle, etc. Là, je regardais l'autre jour, vous savez que les députés là, qui rentrent à l'Assemblée, ils ont des contraintes, ils sont obligés de porter la cravate, etc. Mais il y a des métiers où il y a des contraintes comme ça, mais il y a d'autres métiers où on a moins de contraintes, mais où finalement on doit se poser la question aussi de est-ce qu'on doit porter le costume, etc. L'autre jour, je vous parlais de mon histoire d'appareil photo. Mais il y a tout un tas de... Dans tous les métiers, il y a des codes, etc. Et puis sur Internet, on a des... Comment dire, des mots, des choses comme ça, des comportements, vous voyez, de... Par exemple, un comportement dans le savoir-être que j'aime beaucoup sur Internet, c'est la notion de partager les liens. Si vous trouvez un truc intéressant qui est fait par quelqu'un d'autre, le citer, c'est mieux, quoi. On devrait aussi apprendre beaucoup à citer les gens, parce que pour l'instant, on est dans un monde qui réplique beaucoup les idées des uns des autres, mais qui les cite jamais, alors qu'en fait, il serait intéressant de citer plus les choses, etc., quand on trouve... certaines idées. C'est pour ça que je suis très embêté par ma roue des 5 savoirs, je me rappelle plus où je l'ai trouvé, puis j'ai cherché mais sans trouver, mais que si je le retrouve, je le mettrai ensuite dans la description. Mais le savoir-être aussi, alors je le dis souvent, par exemple, il faut sourire, on dit souvent que le sourire se voit au téléphone, ou s'entend au téléphone, ou je sais pas quoi, mais il s'entend aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Si vous êtes souriant, bien dans vos baskets, etc., et bien en face de vous-même, etc., enfin, ça fait bizarre de dire ça, mais Les gens le ressentent. Moi, j'avais une anecdote, c'est que sur ma page Facebook de Cyberbounia, je disais bonjour aux gens tous les matins, et un jour, je l'ai dit d'une manière différente, et quelqu'un il m'a dit « Ah bah tiens, vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Bah, » il l'a vu juste sur le choix des mots. Alors ce matin, il y a eu un débat et qui était intéressant avec la personne que j'avais en formation, enfin l'atelier Pôle emploi que j'animais, c'était, je leur disais, ne dites jamais bon courage. Ça fait partie aussi de... Moi, je veux pas qu'on souhaite un bon courage pour faire une formation, pour faire plein de choses. Si on souhaite bon courage aux gens, quelque part, on leur souhaite pas forcément, on pense que ça va être pénible la suite. Et les gens de Pôle emploi, souvent, quand ils commençaient la formation, ils disaient aux gens, bah, bon courage. Et moi, je leur disais, bah voilà, il a lancé les 3 heures de formation d'une manière bien, bien belle. Je vais essayer de vous montrer qu'il ne fallait pas de courage pour suivre ce que je vais vous raconter. Mais en fait, dans le savoir-être, il y a plein de choses comme ça qu'il faut repérer. Ensuite, il y a le savoir-dire. Alors, sur Internet, on est beaucoup là-dedans, dans la création d'entreprise, l'entrepreneuriat, dans les sujets qu'on va aborder, on est beaucoup dans est-ce que je sais dire, ce que je sais dire. Qu'est-ce que je sais dire, hein, d'ailleurs. Alors, ce matin, c'est intéressant, j'ai quelqu'un qui m'a dit, il me dit les réseaux sociaux, je sais pas quoi dire. Enfin, je lui dis, vous savez pas quoi dire ou vous savez pas comment le dire? Et il m'a dit, un peu des deux, mais surtout, je sais pas comment le dire. C'est-à-dire qu'il a l'angoisse de la page blanche, vous voyez. Et donc, il y a une autre personne qui avait un peu cette angoisse-là, mais la première personne, elle a carrément sous-traité sa gestion des réseaux sociaux. Alors, une petite entreprise qui sous-traite sa gestion des réseaux sociaux, moi, je trouve que c'est incohérent. Parce qu'en fait, puis il m'a confirmé à peu près que c'est ce qui pouvait se passer, c'est que quand vous êtes une petite ou une grande entreprise, quand vous demandez à quelqu'un d'autre de parler à votre place, il doit sans cesse vous demander ce qu'il doit dire. Donc finalement, vous ne faites que dicter à quelqu'un ce qu'il doit dire, et il fait que de la mise en forme. Moi, je trouve qu'en fait, il est plus intéressant d'apprendre à dire les choses. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet de ce podcast, hein, c'est de comment est-ce qu'on peut apprendre à dire des choses. Ça s'apprend, voilà. On a des techniques, etc. On a des petites méthodes. On peut se mettre des coups de pied au cul de temps en temps, mais... des auteurs, par exemple, comme très très connus comme Coelho, par exemple, disent qu'ils peuvent passer des heures sans écrire, et puis d'un coup ils disent merde, il faudrait peut-être que t'écrives, et qu'ils commencent à écrire, à écrire, à écrire, à écrire pendant des heures et des heures. Donc ça, après, on a chacun notre problématique, et puis des questionnements, mais on réfléchira petit à petit sur ces questions-là, et puis je reviendrai dessus régulièrement. Et puis dans la marque, il y a un savoir-devenir, qui est important, le savoir-devenir. Quels sont vos objectifs à court et à long terme notamment, mais qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, alors c'est des valeurs qu'il faut montrer. Alors il y a certaines choses vous pouvez penser qu'elles sont stratégiques, etc., ne pas trop les partager, et puis il y a quelque chose que vous pouvez dire aux gens, voilà ce que je veux faire, voilà où je veux aller, voilà où j'en suis, voilà où je veux aller, voilà quelle est la progression que je veux amener. Alors ça, c'est des choses notamment qui en pédagogie, en formation, sont très importantes, dire aux gens où on veut les amener. Mais dans une histoire, en fait, quand vous racontez une histoire, les gens doivent sentir où vous voulez les amener quelque part. Enfin, s'ils le sentent pas, ou alors vous avez vraiment envie de les prendre à contre-pied, ce qui peut être une forme de racontage d'histoire, hein. D'ailleurs, je vous le cache pas. Mais il faut aussi les amener quelque part à comprendre, en fait, un petit peu la démarche, etc., et où vous voulez aller. S'ils vous trouvent, pas très cohérent, j'avais parlé l'autre jour de la cohérence, de la congruence... Si, au bout d'un moment, s'ils ne voient pas trop où vous voulez aller, si vous changez toujours de direction, etc., c'est compliqué. Et savoir devenir, c'est notamment un art qui est... j'ai envie de dire un art parce qu'on ne peut pas deviner ce qu'on va faire dans quelques temps, etc. Mais là où c'est important, c'est de penser aussi qu'une marque peut vieillir. Et qu'une marque vieillit, alors des fois, il y a des marques qui vieillissent très très mal, qui sont abandonnées, qui... Non, on fait pas grand chose. Et votre marque personnelle, en fait, elle peut vieillir très vite. Vous devez veiller, en fait, à actualiser constamment votre marque. Il faut pas vous paraissiez dépassé. Même sur les réseaux sociaux, sur Internet, on peut paraître dépassé dès maintenant. Enfin, voilà. Ce matin, quelqu'un m'a dit, moi j'ai qu'un site, réseaux sociaux, mail, etc. Je m'en moque, etc. Et autres. Et il me demande mon avis sur le sujet. Je pourrais lui donner un avis qui n'aurait pas bougé, mais mon avis il bouge tout le temps parce que on est toujours en perpétuelle réflexion, on teste des choses, vous voyez, ce podcast aussi c'est une manière de tester des choses, la vidéo c'est une manière de tester les choses. Je lui disais les réseaux, moi je peux pas vous donner, il m'a dit ouais il y a quelques années, on m'a dit Facebook faut faire ça avec, etc. Et je lui dis mais c'était il y a quelques années quoi, au bout d'un moment. Alors si je lui donnais la même réponse que ce que je donnais il y a 6 mois, 1 an, etc., je paraîtrais dépassé. Alors qu'en fait, le problème, c'est que quand vous paraissez dépassé, les gens n'ont plus aucune raison de vous faire appel à vous. Voilà, tout simplement. Parce que ils ont envie d'avoir quelqu'un qui a du 109, hein, j'ai envie de dire. Alors la politique actuelle nous montre qu'on veut du 109, mais combien il y a d'agences qui ont travaillé pendant des années avec des entreprises et qui d'un coup, l'entreprise était contente, et puis d'un coup on leur dit bah non, mais on va essayer de changer, voir ailleurs. Alors des fois, c'est pas plus beau ailleurs, l'herbe est pas plus verte dans le champ du voisin, mais des fois on a quand même envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte quand même. Vous devez vous méfier de ça, c'est-à-dire quand même qu'il ne faut pas paraître dépassé. Et donc quand vous définissez votre marque, le savoir devenir doit aussi vous apporter vers ça, c'est-à-dire vous dire dans quelques temps où est-ce que je veux aller, ce que je veux faire, etc., vers quoi je veux tendre, notamment dans votre progression, dans votre apprentissage des choses. Et alors, il y a un aspect qui est important, c'est que je trouve que le meilleur moyen pour ne pas vieillir, c'est de continuer toujours à apprendre, et le meilleur moyen pour apprendre, ne pas s'endormir, c'est d'enseigner aux autres, d'expliquer, enseigner, former, donner des cours, faire des formations, mais écrire aussi des tutoriaux. Vous voyez, par exemple, l'exercice même aujourd'hui du podcast comme ça, c'est... moi, je prépare des notes, hein, quelques notes pour éviter de me perdre, parce que je pourrais pas être parti pendant des heures, et c'est pas le but. Mais il y a aussi un aspect important, c'est que ça m'oblige à réfléchir toujours en permanence. Par exemple, quand je fais des cours, il y a des fois, je rentre à quelques minutes de cours, j'ai une idée de ce que je veux dire, mais il y a des choses qui passent, des éléments qui passent et tout, et je me dis, mais est-ce que je dois les expliquer comme ça? Comment je dois les expliquer? Comment je vais arriver à les expliquer? Ma question préférée que je donne à mes élèves en partiel, c'est des trucs qui leur paraissent bêtes comme ça. Je leur dis, expliquez-moi un hashtag. Je vous ai dit d'ailleurs, je vous dis, expliquez-moi qu'est-ce qu'un réseau social, expliquez-moi un hashtag. La question aussi, c'est... à quoi sert Snapchat? Voilà. Un commerçant vous demande à quoi sert Snapchat, comment vous lui expliquez à quoi sert Snapchat? Pourtant, c'est un outil, ils utilisent tous les jours Snapchat, mais à quoi sert Snapchat? À quoi peut servir Snapchat pour quelqu'un, une entreprise, à qui je dois expliquer ça? L'an dernier, je leur ai même posé la question, c'était du partiel, et ça m'a fait rire sur le coup, elle dit, expliquez ce qu'est un hashtag à votre grand-mère, qui n'a pas Internet. Voilà. Comment vous expliquer Internet, etc. Alors, ça peut vous paraître compliqué là-dedans, etc. Et là, je voudrais vous renvoyer sur des citations de Richard Feynman. Alors, Richard Feynman, si vous ne connaissez pas, était un physicien, professeur reconnu pour ses qualités pédagogiques et qui a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation et qui avait coutume de dire quelque chose qui disait « Si on ne pouvait expliquer quelque chose simplement, c'est qu'on ne l'a pas compris. » Voilà. Et alors en fait, il est assez clairvoyant et marrant parce que il était quand même prix Nobel sur l'électrodynamique quantique et il disait un truc. Je pense que je peux dire en toute sécurité que personne ne comprend la mécanique quantique. Voilà. Pourtant, c'est un prix Nobel qui vous dit ça, donc c'était assez amusant. Mais en fait, surtout ce qu'il voulait dire, il avait plein de petites phrases comme ça, mais ce qu'il voulait surtout dire, c'est que si vous n'êtes pas capable de trouver les mots simples pour expliquer quelque chose, une idée très compliquée, mais même des fois des idées très simples, ne pas arriver à les expliquer très simplement, quelque part, en fait, vous n'avez pas compris toutes les choses, toutes les ramifications, etc. Et par exemple, pour revenir sur cette histoire du hashtag, si vous devez expliquer simplement ce qu'est le hashtag, mais toutes les ramifications du hashtag, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas si simple que ça. Et en fait, si vous réfléchissez à votre marque personnelle, à ce que vous faites, etc., vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des choses qui vous semblent logiques pour vous, mais qui sont pas si simples que ça à expliquer. Et peut-être d'ailleurs, vous vous dites, mais pourquoi, est-ce que je suis capable d'expliquer simplement pourquoi, quel est mon métier, ce que je fais, pourquoi je veux le faire, pourquoi je lance ce produit, pourquoi je lance un nouveau service, un nouveau site, pourquoi j'ai fait cette vidéo, pourquoi... Steve Jobs devait expliquer pourquoi il avait fait un iPhone, enfin, j'ai envie de vous dire, mais il ne devait pas l'expliquer avec des mots compliqués, il devait l'expliquer avec des mots qui vous donnent envie de l'acheter. Et alors, pour revenir à Richard Feynman, il disait cette petite phrase, hein, qu'il se moquait un peu sur les explications, sur la mécanique quantique, etc. Et en fait, il avait une conclusion qui était savoureuse, et je vous laisserai là-dessus, il avait dit « Ce que je ne peux pas créer, je ne comprends pas. » Alors, ça sonne mieux en anglais, mais... C'est assez intéressant, je trouve, et ça sera le sujet, en fait, de la suite. Nous parlerons justement de la création, de comment créer les choses et comment se lancer dans la création, et notamment, alors il y aura lutté sur la page blanche, mais Il y aura aussi comment oser publier ses premières vidéos, son premier podcast, son premier son, etc. Tout un tas de choses. Et donc, ce seront des sujets que j'aborderai très régulièrement avec vous. Mais ça sera à partir de demain et les prochains jours. Et donc, je vous dis à demain. Ciao, ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.